Spécialiste de quasiment toutes les langues indo-européennes, Antoine Meillet est une figure incontournable de la discipline linguistique. Ses nombreux travaux témoignent de son érudition et ont marqué la recherche, tout en restant une source d'inspiration actuelle. Rencontre avec Robin Meyer, professeur assistant à la section des sciences du langage et de l'information, et Sébastien Moret, maître d'enseignement et de recherche à la section de langues et civilisations slaves et de l'Asie du Sud, pour faire le point sur son héritage.
Si je m'intéresse encore à Antoine Meillet, c'est parce qu'il a été un des personnages principaux de ma thèse de doctorat en histoire de la linguistique, dans le cadre de laquelle j'avais retrouvé toute une série de textes qu'on pourrait qualifier de politico-linguistiques, qu'il avait écrits notamment dans le contexte de la Première Guerre mondiale et dans les discussions des conférences de paix qui avaient suivi, et dans lesquelles il donnait son avis, non seulement de linguiste, mais aussi de savant, quant à l'avenir de certaines régions et de certains territoires de l'Europe après la guerre.
Des personnages que j'ai rencontré pour la première fois dans mes études, même de bachelor, je pense, mais dont les travaux étaient au fond de ma thèse de doctorat. Donc, une des questions qu'il aborde dans son esquisse d'une grammaire de la langue arménienne, c'était le grand problème que je touche ou que j'essaie à résoudre dans ma thèse. Et donc, c'était la personne qu'il faut suivre et sur laquelle il faut travailler.
Antoine Meillet, je pense que c'est la figure typique du linguiste du 19e siècle. Il naît en 1866, il mourra en 1936. Et comme tous les linguistes de l'époque, il fait de la linguistique historique, de la grammaire comparée. Il s'intéresse aux langues indo-européennes et il va devenir le spécialiste de la quasi-totalité des langues indo-européennes et de la grande famille indo-européenne.
Tant linguiste qui touche à toutes les langues, presque toutes les langues, de la famille indo-européenne, dont les ouvrages théoriques aussi sont présents partant dans le sens où il a formulé en premier lieu, je pense, l'idée de la grammaticalisation, un sujet qui est encore très important de nos jours. Je pense que l'autre élément qui est vraiment indicatif de son état comme grand linguiste, c'est sa barbe, qui est vraiment énorme et formidable.
À l'époque, tous les linguistes ont commencé par faire de la grammaire comparée, de la linguistique historique, alors que maintenant, les linguistes qui font encore de la grammaire comparée, de la linguistique historique, sont des denrées rares parmi les linguistes actuels. Donc, on voit aussi là, avec la figure de Meillet, vraiment une évolution de la discipline où ce qui était le point central de la linguistique au 19e et encore jusqu'au début du 20e siècle, bien, c'est devenu peut-être, excuse-moi Robin, mais une discipline un petit peu marginale.
Non, tout à fait, c'est juste, malheureusement.
Il a enseigné dans les grandes institutions universitaires françaises, à l'École pratique des hautes études, mais aussi au Collège de France. Il a aussi été professeur d'arménien à l'École des langues orientales. Donc c'est vraiment un produit de l'université française, mais avec clairement un rayonnement international, puisque quand il meurt, on trouve des nécrologies dans des revues d'un nombre très impressionnant de pays. Donc c'était vraiment une figure importante de la linguistique.
Alors, c'est peut-être intéressant aussi de voir qu'Antoine Meillet s'inscrit dans une grande tradition des linguistes. Alors, il était élève et successeur de Ferdinand de Saussure. Il lui-même, il a formé un grand nombre des linguistes extrêmement bien connus et populaires du XXe siècle, alors comme Alfred Ernoux, comme Georges Dumézil, comme Émile Benveniste. Mais du même, il faut mentionner qu'ils ne sont pas tous restés comme linguistes. Ils ont développé parfois aussi d'autres intérêts.
Oui, ils ne sont pas tous restés dans la linguistique historique, dans la grammaire comparée, et ils ont eu probablement envie d'élargir un petit peu les perspectives, et ils ont donné naissance à d'autres courants de la linguistique, et on sait que Benveniste, il est connu essentiellement pour sa théorie de l'énonciation, mais probablement que peu de gens savent qu'il a commencé comme spécialiste des langues indo-européennes. Donc, tous ces gens que Meillet a formés, Meillet les a formés en linguistique indo-européenne, mais ces linguistes-là ont par la suite changé un petit peu leur vision et leur envie et se sont lancés dans d'autres domaines et d'autres directions de la langue.
Bon, nous avons pris pour raison de faire le colloque sur lequel se pose ce livre. L'œuvre de Meillet datée de 1921 qui s'appelle Linguistique historique, linguistique générale. On y trouve des éléments extrêmement innovateurs. Il inclut alors la considération de la linguistique, de la sociolinguistique, alors des facteurs sociologiques qui joue un rôle dans la langue et dans l'expression langagière des gens.
C'est ça, et le titre reflète bien les deux orientations que Meillet a eues. Donc, il a commencé en faisant de la linguistique historique, mais il avait aussi l'ambition de découvrir des lois ou bien des phénomènes qui seraient valables non pas uniquement pour une famille de langues ou un groupe de langues, mais des lois ou des phénomènes qu'on pourrait rapporter à l'ensemble des langues. C'est ce qu'on appelle la linguistique générale. Donc, ce titre et cet ouvrage représentent bien ces deux orientations et ces deux ambitions. Ce n'était pas uniquement de la linguistique historique et de la grammaire comparée, c'est aussi une ambition plus large, c'est-à-dire d'arriver à couvrir non plus des langues particulières, des familles de langues particulières, mais l'ensemble des langues dont on pourrait faire ressortir des lois générales ou des phénomènes généraux qui les concernent toutes.
L'objectif pour faire un tel travail, c'était en premier lieu, je pense, notre intérêt partagé sur la personne d'Antoine Meillet. De l'autre côté, de faire connaître ce genre à tout le monde, alors tout le monde est intéressé bien sûr, et puis de démontrer que même aujourd'hui, il y a presque 100 ans, alors 90 ans après sa mort, que son œuvre reste encore actuelle et intéressante pour les gens, alors que l'on y retrouve des choses qui posent des questions irrésolues ou dont il y a peut-être des améliorations où on peut ajouter des nouveautés et des actualités là. Et puis, même, comme je l'ai dit, c'est un auteur encore actuel, même de nos jours.
L'ambition de ce numéro collectif, c'était de montrer aussi qu'il reste des choses à faire sur Antoine Meillet, qu'il y a encore des aspects de sa vie, de son œuvre, qui n'ont pas encore été abordés. Dans l'ouvrage, il y a par exemple un article qui s'intéresse à l'analyse des très nombreux comptes rendus, en tout cas d'une partie des très nombreux comptes rendus qu'il a publiés. C'était une source sur Meillet qui n'avait pas vraiment été encore exploitée. Et puis de montrer aussi que Robin est linguiste spécialiste de linguistique diachronique, je suis historien de la linguistique, donc c'était de montrer aussi que l'œuvre de Meillet, la personne de Meillet, peut être abordée de différentes façons par différents linguistes qui travaillent sur différentes sous-disciplines de la linguistique et qui a encore des choses à faire sur son œuvre sans devoir se limiter à de la linguistique historique ou de la sociolinguistique, par exemple.
Alors, dans la première partie de ce livre, qui traite de la linguistique comparée et diachronique en général, on a trois contributions qui traitent des trois grand élément des intérêts de Meillet. La première contribution par Martina Astridrola, c'est sur l'idée grecque et les formules dans l'épopée homérique. La deuxième, par Daniel Culligan sur les questions indo-européennes. Et puis la troisième, la mienne, sur l'arménien classique. Ce qui est assez intéressant à voir, c'est encore le fait que dans les contributions, on voit l'idée de la pertinence continue de l'œuvre de Meillet, mais aussi le fait qu'il y a des éléments qui sont encore sous question. Ça veut dire que, alors, je prends l'exemple du niveau indo-européen, alors là, on s'intéresse parmi d'autres choses, à la reconstruction des sons de la langue mère de toutes les langues de l'Europe, presque toutes les langues de l'Europe, alors comme les sons vélaires, une des questions qui aborde Daniel Culligan, c'est la question de combien de séries des vélaires, alors des sons comme « que » et « g », est-ce qu'il faut reconstruire trois ou deux? Et c'est une question encore ouverte, il y a deux perspectives là-dessus, il faut reconstruire deux ou trois, et Meillet et Culligan aussi se prononcent pour la question grecque. Pareillement, pour l'arménien, il y a la question de la reconstruction du parfait périphrastique. Et là encore, Meillet a posé une idée au début du XXe siècle qui a été extrêmement influente pendant la première moitié du siècle. Mais de nos jours, alors, les croyants sont devenus un peu moins nombreux, disons, moins nombreux.
La deuxième partie du recueil propose des études qui ont une approche un petit peu plus historique, un petit peu plus épistémologique de l'œuvre d'Antoine Meillet. Ces articles se basent sur des textes de Meillet qu'on pourrait qualifier de moins linguistiques ou moins purement linguistiques. C'est soit des textes peut-être plus généraux, soit des textes personnels comme ses lettres, comme ses journaux intimes, mais aussi des textes qui sont en lien avec le contexte dans lequel ils ont été écrits, notamment le début du XXe siècle en France. Et à partir de ces sources un petit peu différentes de celles utilisées dans la première partie, les auteurs tentent de montrer que ces textes de Meillet aussi ont des choses à dire, des choses à révéler, et qu'ils sont intéressants aussi pour la recherche sur Meillet. Par exemple, Francis Gandon propose une analyse des lettres et du journal que Meillet a écrit lors de son premier séjour en Arménie au début des années 1890. Et il montre très bien l'ambiance dans laquelle il évoluait, ses états d'âme, ses émotions, et puis aussi la façon dont il appréhende ce nouveau pays, cette nouvelle région, les gens qui y habitent. Et probablement que dans les journaux de Meillet, il y a encore des éléments qu'on devrait faire ressortir, qu'on devrait analyser. Ces journaux ont été publiés au début des années 2000, par là, et ils n'ont pas encore été vraiment analysés de façon exhaustive et précise, et probablement qu'il reste encore des choses à faire là-dessus, comme il reste aussi énormément de choses à faire sur les très nombreux comptes rendus que Meillet a écrits. Madame Chava Badzeev-Shilkrod de Tel Aviv propose une première ébauche d'analyse à partir de certains comptes rendus. On a écrit peut-être plusieurs centaines, voire peut-être 1000, voire plus, dans plein de revues différentes et sur plein de sujets linguistiques différents. Donc là aussi, c'est probablement une source qui mériterait d'être exploitée par les chercheurs.
Il y a un élément qui est assez intéressant à faire avec son séjour en Arménie, le fait qu'il n'a pas vraiment apprécié l'Arménie, ni les Arméniens, mais après, il est devenu un des grands experts de la langue arménienne. Et ça m'étonne, effectivement, mais alors, il démontre aussi qu'il est vraiment un linguiste qui peut séparer alors, ses émotions personnelles et son intérêt linguistique et académique. Sur la langue.
Toujours par rapport à la personnalité de Meillet, je crois qu'il faut se rendre compte qu'il a été, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, pratiquement une star que tout le monde connaissait, dont tout le monde parlait. Et par exemple, il y a quelque temps, j'ai feuilleté les archives de la presse romande. Et par exemple, quand il venait faire des conférences à Genève ou à Lausanne, eh bien, la presse en parlait. La presse relevait ses publications. Donc, c'était vraiment une personnalité extrêmement importante, extrêmement connue au début du XXe siècle. Et à sa mort, pratiquement tous les journaux d'Europe ont parlé de la mort du grand linguiste qui était Antoine Meillet. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus vraiment de linguiste qui aurait cette aura-là. Sa popularité donc, tenait peut-être au fait de sa personnalité aussi. C'était probablement quelqu'un, un professeur qui avait un grand charisme, une très grande renommée. Mais il faut aussi savoir qu'à l'époque, la linguistique était une science star, peut-être là aussi. C'était une discipline nouvelle qui était en train de montrer et d'obtenir des résultats extrêmement intéressants, notamment l'élaboration de la grande théorie indo-européenne. Et la linguistique était à ce moment-là, contrairement à maintenant, une discipline extrêmement populaire, et beaucoup de gens faisaient de la linguistique à l'époque.
Et c'était aussi encore une ère dans laquelle il y avait des grandes découvertes, alors des découvertes des différentes langues anciennes qui auparavant n'étaient pas connues, alors comme les langues anatoliennes au début du XXe siècle, ou le déchiffrement du mycénien au milieu du XXe siècle. Alors c'était encore là où... Bon, pas chaque jour, mais de temps en temps, il y avait...
Exactement, c'est une science, c'est une discipline, la linguistique historique et la grammaire comparée, qui a, comme une espèce de boule de neige, accumulé énormément d'informations, énormément de découvertes. Et comme le dit Robin, elle a très vite pris une ampleur extrêmement grande. Alors qu'elle avait commencé avec le sanskrit, le grec, le latin, on s'est vite rendu compte qu'on pouvait ajouter beaucoup d'autres langues à cette grande famille indo-européenne, ouvrant ainsi des perspectives de recherche pour d'autres spécialistes et dans d'autres directions.
Cette photo démontre Antoine Millet en plein enseignement. Alors, il est devant le tableau noir en écrivant et en expliquant quelque chose. C'est à l'école des pratiques des hautes études à Paris, dans des archives de laquelle on a retrouvé cette image grâce à un collègue de l'école. Et autour de la table sont assises les jeunes et pas si jeunes hommes, presque tous barbés, qui écoutent soigneusement à ce que dit le maître.
Et puis on voit aussi Antoine Meillet en action, parce qu'on travaille, Robin et moi, sur ses textes. Mais là, on le voit en train d'enseigner et on voit surtout avec quelle attention ces étudiants l'écoutent. Ils ont tous l'air extrêmement concentrés, extrêmement pris parce que Antoine Meillet était en train d'expliquer. Donc de voir le linguiste en action en train d'enseigner, je pense que cette photo, elle est aussi pertinente et importante pour ça.
Peut-être qu'ils doivent écouter très soigneusement parce que, comme on l'a entendu, sa voix apparemment était extrêmement faible et douce.
Alors, il y a quelques années, je m'étais intéressé au projet des archives de la parole, lancé au début du XXe siècle par le linguiste Ferdinand Bruno. Et Ferdinand Bruno avait l'ambition d'utiliser les moyens techniques qui commençaient à apparaître à l'époque pour conserver sur bande, sur disque, le plus de témoignages possibles de la façon de parler en France. Donc il a enregistré des acteurs, des hommes politiques, il est allé se promener dans les campagnes pour entendre, pour faire parler, pour enregistrer des paysans de différentes régions, pour voir la façon dont ils parlaient. Et puis, j'ai découvert aussi un petit peu par hasard qu'il avait proposé à Antoine Meillet d'être enregistré dans le cadre de ce projet des archives de la parole. Et c'est un petit peu par hasard que je suis tombé sur Gallica, sur ce disque de face sur lequel il y a deux improvisations. Et étant donné que, après vérification, ce disque ne se trouvait pas dans les listes bibliographiques d'Antoine Meillet, Robin et moi, on a décidé d'essayer de le retranscrire au mieux et de le proposer pour la première fois à la communauté scientifique.
Rétranscription, c'était vraiment un effort énorme parce que la voix de Meillet était extrêmement faible et douce. Et la méthode enregistrée était tellement bruyante qu'en effet, on écoute presque rien. Et donc, nous avons essayé de le faire un peu plus simple à écouter en utilisant alors des logiciels différents, en alors écrasant le bruit, mais aussi en utilisant l'intelligence artificielle pour alors faire notre travail. Et pour la plupart, ça nous a donné quelque chose de mieux, au moins, même si pas parfait. Et vu que c'est un vrai trésor, cet enregistrement, parce que alors il n'y a pas grand nombre de gens dont on a des voix du début du XXe siècle, ça valait l'effort.
Et je pense que le mot effort est bien choisi parce que ça a été un gros travail que de retranscrire ces deux enregistrements. Ils ne sont pas très lents, ils font environ 3 minutes, mais ça a été un gros travail d'écoute, de réécoute. Il a fallu réécouter de nombreuses fois le même passage pour essayer de bien capter ce qu'il dit, le mot qu'il utilise, de bien comprendre la phrase et ses idées. Donc on est tout à fait conscient que ces retranscriptions sont pas complètes, elles ne sont pas totales. Il reste des endroits qui nous ont échappé. Et puis, il y a probablement des petites fautes ou des petites erreurs. Peut-être que d'autres personnes auraient entendu un petit peu différemment. Et ce qui était intéressant aussi, c'était de voir qu'à l'époque, on avait probablement une autre façon de parler, un autre rythme, une autre façon de poser la voix. Et là aussi, il a fallu s'adapter à cette façon de prononcer, à cette façon de parler, à ce rythme différent de ce dont on a l'habitude maintenant.
Dans l'œuvre de Meillet, on découvre parfois que même lui, le spécialiste, n'importe quel nombre de langues, n'est pas toujours sûr de ce qu'il faut faire. Alors, comment résoudre une question, comment répondre à un problème? Et puis, il admet. Alors, il propose quelque chose, il propose une solution en disant, voilà ce qu'on pourrait en faire, même si, à ce point, ce n'est pas forcément clair si c'est juste. Et on a découvert, parfois c'est juste, parfois c'est nul. Et donc, je pense, dès nos jours, il faudrait le faire plus nous-mêmes, de proposer des solutions, même si, alors, les données sont compliquées, même si on ne peut pas être sûr à 100%, parce que sinon, on ne fait rien. Si on ne risque rien, on ne gagne rien.
Non, pas sûr. Nous n'avons que des peurs. Or, on est la même dispactement comme on parle. Pour le présent, c'est vrai que pire encore. Personne ne prend la peine d'observer la façon dont nous parlons.